pouvez en écouter la lecture ou suivre dans vos Bibles. Faites comme vous le souhaitez. 1 Chronique, chapitre 22, et je commence au verset 2. David ordonna de rassembler les immigrés habitant le pays d'Israël. Il leur imposa la tâche de façonner des pierres de taille pour la construction de la maison de Dieu. Il prépara une grande quantité de fer destinée à la fabrication des clous pour les battants des portes, ainsi que des crochets. Il accumula une masse incalculable de bronze, de même qu'une quantité considérable de bois de cèdre que les Sidoniens et les Tyriens lui fournissaient en abondance. En effet, David se disait « Mon fils Salomon est jeune et sans expérience. Or, le temple à construire pour le Seigneur devra être renommé dans les pays pour sa grandeur insurpassable et sa splendeur. Je veux donc faire des préparatifs en vue de cette construction. » Ainsi, David fit de nombreux préparatifs avant sa mort. David convoqua son fils Salomon et lui ordonna de construire un temple pour le Seigneur, le Dieu d'Israël. Il lui dit, « Mon fils, j'avais moi-même l'intention de construire un temple à l'honneur du Seigneur, mon Dieu. Cependant, le Seigneur m'a déclaré, « Tu as fait couler beaucoup de sang au cours de tes grandes guerres que tu as menées. À cause de tout ce sang répandu à terre devant moi, ce n'est pas toi qui construiras un temple où l'on viendra m'adorer. Mais un fils va naître de toi, ce sera un homme de paix, et je ne permettrai pas aux ennemis qui l'entourent de troubler sa tranquillité. Il portera le nom de Salomon, ce qui signifie le pacifique. Car durant son règne, j'accorderai à Israël paix et sécurité. C'est lui qui me construira un temple, il sera pour moi un fils et je serai pour lui un père. Je rendrai inébranlable sa royauté sur Israël. Eh bien, mon fils, continua David, que le Seigneur soit avec toi, afin que tu réussisses à construire la maison du Seigneur ton Dieu, comme il l'a promis à ton sujet. Qu'il t'accorde du discernement et de l'intelligence lorsqu'il te donnera l'autorité sur Israël pour que tu puisses obéir à son enseignement. Si tu respectes et accomplis les prescriptions et les règles qu'il a données à Moïse pour Israël, alors tu réussiras en tout. Sois courageux et fort, ne crains rien, ne t'effraie pas. J'ai pris la peine d'accumuler pour la maison du Seigneur près de 3500 tonnes d'or, plus de 30 000 tonnes d'argent, ainsi qu'une quantité incalculable de bronze et de fer. J'ai aussi préparé du bois, des pierres. Tu pourras en ajouter encore. Tu auras à ton service des ouvriers, artisans spécialisés dans le travail de la pierre et du bois, ou experts en tout autre ouvrage. Tu disposes d'une quantité inépuisable d'or, d'argent, de bronze et de fer. Eh bien, mets-toi à l'ouvrage et que le Seigneur soit avec toi. » Ensuite, David ordonna à tous les chefs d'Israël de venir en aide à son fils Salomon. « Le Seigneur, votre Dieu, n'est-il pas avec vous ?» leur dit-il. « Il vous a accordé la tranquillité de tous les côtés depuis qu'il a livré les anciens habitants du pays à mon pouvoir. Et voici maintenant soumis au Seigneur et à son peuple. Alors, appliquez-vous de tout votre cœur et de tout votre être à connaître la volonté du Seigneur, votre Dieu. Mettez-vous à l'ouvrage et construisez le sanctuaire du Seigneur Dieu. Vous pourrez ainsi déposer dans le temple que vous aurez construit en son honneur le coffre de l'alliance du Seigneur et les objets qui appartiennent à Dieu. » Jusqu'ici, notre lecture. Peut-être, au moment de commencer, une mise en contexte. Vous n'êtes peut-être pas familier de l'histoire d'Israël et du livre des Chroniques. On voit ici le discours de David, qui est un roi d'Israël. C'est le deuxième roi d'Israël, mais c'est le premier qui est une réussite, hein, après Saül qui était un échec. C'est un roi approuvé par Dieu. Il est appelé le roi selon le cœur de Dieu. Et c'est une figure très importante de la Bible. à ce moment-là de l'histoire d'Israël, le peuple vient d'entrer dans le pays que Dieu lui donne. Parce que Dieu l'a fait sortir de l'esclavage et il a dépossédé des peuples pour leur donner une terre. Et c'est encore le début du royaume. Il y a encore pas mal d'ennemis qui entourent le pays, mais David, durant son règne, les a repoussés, il les a soumis, il a sécurisé le pays. Il a établi Jérusalem comme capitale. Bref, sous son règne, Israël est devenu un véritable État. Mais il y a une chose qui tracasse David, c'est qu'il n'y a pas de temple. Le temple, c'est le lieu où réside Dieu. Et pendant tout ce temps, Dieu résidait dans des logements provisoires, sous des tentes dans le désert ou dans tel ou tel lieu sacré. Et David veut construire un lieu glorieux, un lieu qui parle de la gloire de Dieu, qui a de la renommée pour le monde. Il veut montrer au monde comme ça la grandeur de Dieu. C'est un beau projet, mais Dieu lui dit par le prophète Nathan que ce n'est pas lui qui le fera. Et David le rappelle ici. Il ne construira pas ce temple. Et on voit ici, dans ce texte, David qui met tout en œuvre pour qu'il soit construit par son fils, Salomon. Peut-être, quand on lit un texte comme ça, on peut se demander, un texte ancien, en quoi est-ce qu'il nous concerne ? C'est sympa pour la culture de lire un texte d'histoire d'un autre peuple. Mais en quoi est-ce qu'il nous concerne ? À lire ce texte, je trouve que ce texte est motivant. Parce qu'on voit une belle mission confiée à un personnage biblique. Et il y a la promesse de la bénédiction de Dieu. Et lire un texte comme ça, je trouve toujours que c'est stimulant. Ça donne envie de se lancer et d'accomplir la mission. Au travail, il y a un temple à bâtir, un projet à mener. Il y a quelques années, nous avons vécu dans cette église cet enthousiasme en nous mettant en route pour aménager ce bâtiment et le transformer en lieu de culte. Plus récemment, nous avons mené un beau projet en organisant une grande fête d'anniversaire qui a permis de revenir sur ce que Dieu a fait pendant les 40 ans de la vie de cette église. Et un texte comme celui-ci permet de nous fixer les yeux sur les promesses de succès que contient la Bible et nous invite à nous lancer. Et on peut regarder, étudier les postures de chacun. Dans ce texte, on voit une inspiration pour une organisation définie. Il y a un leader qui est le roi, c'est à lui que la mission est confiée de façon forte et solennelle. Il est au bénéfice de la bénédiction et des conseils de son père, le roi David, qui a prouvé dans sa vie que lorsqu'on suit Dieu, on réussit ce qu'on accomplit. Il est aussi au bénéfice des préparatifs amorcés. Parfois, le plus dur, c'est de se lancer, mais là, David a rassemblé la matière première, il n'y a plus qu'à. Et il pourra bénéficier du soutien de l'aide du peuple. Cette aide, ce n'est pas simplement des exécutants serviles, hein, c'est une participation active. Le verbe qui est traduit par « aider » dans la version que j'ai lue, c'est « venir en aide »,« prêter son concours » dans d'autres traductions. Salomon ne doit pas travailler seul, en mode roi autoritaire d'un peuple soumis. Il peut s'appuyer sur les chefs du peuple que David voit certainement comme des courroies de transmission entre le roi et le peuple. Du coup, il les prépare, eux aussi, à leur mission. Dans ce texte, on voit aussi cette constante dans tous les conseils donnés, mettre Dieu à la première place. Dieu le dit à Salomon, s'il respecte et accomplit les prescriptions données par Moïse, c'est-à-dire la loi de Dieu, alors l'entreprise réussira. Quant aux chefs du peuple, ils doivent avant tout s'appliquer à connaître la volonté de Dieu. Tous doivent avoir cette soumission directe à Dieu. Ça ne concerne pas seulement le roi. Le roi n'est pas un intermédiaire entre Dieu et les autres. Tous doivent chercher à connaître, s'appliquer à connaître sa volonté. C'est un conseil qu'il est bon d'entendre, de réentendre, de répéter. Quoi que nous fassions, nous devons nous mettre dans la soumission à Dieu. Autre chose encore, je suis touché en lisant ce texte par l'attitude de David. David, en leader qui connaît sa place, qui sait que son temps touche à sa fin et qu'il accepte. Il a voulu construire le temple, mais quand Dieu lui a dit de laisser son successeur le faire, il l'a accepté. Et du coup, il se met au service de Dieu, du projet et de son successeur. Il fait tout ce qu'il peut sans aller trop loin. Il prépare ce qu'il peut préparer et surtout, il se sert de son aura, de son prestige pour lancer celui qui lui succède et l'établir au milieu de la génération suivante. Ainsi entouré et surtout en mettant Dieu à la première place, le jeune Salomon ne peut que réussir dans son entreprise. Et il réussira. Le temple sera une réalisation superbe. Ce texte est inspirant lorsqu'on veut se mettre en route avec des projets et on y trouve de bons principes qui peuvent être mis en œuvre. Mais je crois que ce texte a une portée bien plus large et qui concerne tout le monde, pas seulement ceux qui se lancent dans des projets. Et il est temps de faire un petit passage par ce qu'en théologie on appelle de la typologie. Qu'est-ce que la typologie ? La typologie, je cite le petit dictionnaire de théologie, la théologie est une relation d'accomplissement qui existe entre une réalité de l'Ancien Testament, qu'on appelle le type, et une réalité du Nouveau Testament, qu'on appelle l'antitype. Je répète, la typologie, c'est une relation d'accomplissement qui existe entre une réalité de l'Ancien Testament, le type, et une réalité du Nouveau Testament, l'antitype. On dit que l'antitype accomplit type et que le type préfigure l'antitype à venir. Et on le trouve dans la Bible parce qu'il y a deux parties, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, et ce qui se vit dans le Nouveau Testament, dans l'alliance avec Jésus-Christ, est radicalement différent de ce qui se vit avant. Radicalement différent. Vous le savez, il n'y a plus de peuple au sens humain du terme, de peuple de Dieu auquel on appartient par sa dépendance. On ne naît pas chrétien, on le devient. Ce n'est pas parce que nos parents étaient chrétiens qu'on l'est. On le devient par décision. Il n'y a pas non plus de pays géographique ou de capitale où vivent les chrétiens. Il n'y a pas non plus de temple au sens d'un bâtiment que Dieu habite de sa présence. Non, le temple est devenu un bâtiment spirituel que forme l'ensemble des croyants. Et vous voyez où je veux en venir avec la typologie. Le temple de Salomon, c'est le type de ce qui est à venir, de ce nouveau temple qui n'est pas situé dans un bâtiment à Jérusalem, mais qui est l'ensemble des chrétiens à travers le monde. C'est là qu'habite Dieu, au milieu de son peuple. C'est là qu'il se trouve. Quant au roi chargé de construire le peuple, là aussi, Salomon est un type qui annonce Jésus-Christ. Le grand roi, le roi par excellence. C'est lui, le descendant de David, sur qui Dieu dit ce qui est écrit au verset 10 que nous avons lu. C'est lui qui me construira un temple. Il sera un fils pour moi. Je serai un père pour lui. Je rendrai inébranlable sa royauté sur Israël. Nous savons que Salomon est passé, il est mort. Jésus-Christ est vivant. Et sa royauté est inébranlable sur Israël. Et dans ce tableau, où sommes-nous ? Qui sommes-nous ? Ce serait bien quand même de se trouver pour pouvoir recevoir l'exhortation qui nous est destinée. pense, mes amis, que nous pouvons nous reconnaître dans les chefs d'Israël à qui Dieu, David donne des instructions. Je vous invite à les relire, ces instructions, à partir du verset 17. David ordonna à tous les chefs d'Israël de venir en aide à son fils Salomon. Le Seigneur, votre Dieu, n'est-il pas avec vous, leur dit-il ? Il vous a accordé la tranquillité de tous les côtés depuis qu'il a livré les anciens habitants du pays à mon pouvoir. Les voici maintenant soumis au Seigneur et à son peuple. Alors, appliquez-vous de tout votre cœur et de tout votre être à connaître la volonté du Seigneur, votre Dieu. Mettez-vous à l'ouvrage et construisez le sanctuaire du Seigneur. Vous pourrez ainsi déposer dans le temple que vous aurez construit en son honneur le coffre de l'alliance du Seigneur et les objets qui appartiennent à Dieu. Est-ce qu'il est légitime de se reconnaître en chef du peuple ? Chef, nous ? Rappelez-vous ce que dit Pierre dans sa première épître, nous l'avons étudié cette année au chapitre 2. Mais vous, vous êtes la lignée choisie, la communauté royale de prêtres, la nation qui appartient à Dieu, le peuple qui l'a fait sien. Une communauté royale de prêtres, ou selon les autres traductions, une communauté de rois prêtres. Nous sommes investis de cette responsabilité. Nous sommes des rois prêtres, chefs chargés d'aider le Fils Jésus, de nous mettre à son service, de lui prêter secours. Et les parallèles sont plus nombreux qu'il n'y paraît. Le texte parle de tranquillité, tranquillité sur le pays, puisque les anciens habitants ont été soumis. Souvenez-vous de ce texte qui se trouve au chapitre 3 de Colossiens et qui dit que Dieu a désarmé les autorités et les pouvoirs spirituels. Il les a donnés publiquement en spectacle et en les emmenant comme prisonniers dans le cortège triomphal de son fils. Les ennemis ont été vaincus. Les forces spirituelles qui régnaient sur le monde ont été vaincues comme les ennemis d'Israël par David. Et nous gagnons la tranquillité de voir les accusations portées contre nous tomber, clouées à la croix de Jésus-Christ. Ces accusations qui viennent nous dire « Tu n'es pas assez bien pour vivre avec Dieu. Tu es en danger. Si tu fais une erreur, tu vas perdre ton salut, la relation que tu as avec lui. » Cet accusateur qui vient nous titiller. Il a été vaincu. Jésus règne. Nous sommes libérés, nous vivons dans sa présence et rien ne peut nous séparer de son amour. Je pense pouvoir dire que quand David s'adresse au chef, Dieu s'adresse à nous de la même façon. Venez en aide à mon fils. Et qu'est-ce qu'il demande ? Qu'est-ce qui est demandé au chef ? Premièrement, c'est le verset 19, appliquez-vous de tout votre cœur et de tout votre être à connaître la volonté de Dieu. C'est la première chose à faire, connaître la volonté de Dieu. Et je note qu'il est demandé de connaître la volonté de Dieu et non pas de faire d'accomplir la loi de Dieu. Ce n'est pas une liste de choses à faire, une loi, des prescriptions. Venir au culte, check. Prier tous les soirs avant de m'endormir, check. Lire ma Bible tous les matins, check. Connaître la volonté de Dieu, savoir ce qu'il veut, c'est plus profond que ça. C'est plus fin. Parce que ce que quelqu'un veut, c'est quelque chose de complexe à saisir. Si je peux faire une analogie, si on souhaite connaître la volonté de son conjoint ou d'un ami, on ne va pas s'asseoir un jour et lui demander « Vas-y, explique-moi une bonne fois pour toutes ce que tu aimes et comme ça, je ne ferai pas d'erreur. » Il faut passer du temps avec lui, le côtoyer dans tout un tas de situations pour saisir les nuances et l'observer. Connaître la volonté de Dieu, attachez-vous de tout votre cœur et de tout votre être. Cette expression exprime la motivation la plus intime. On la retrouve dans la Bible, dans le Deutéronome. C'est quelque chose qui dit que ça doit être une priorité de la vie. Tous les jours, il est bon de chercher à connaître la volonté de Dieu, de chercher à discerner, de le faire sincèrement, d'en faire quelque chose qui compte pour nous, non pas comme une obligation, un passage obligé de ma journée. Ce n'est pas confortable. On aimerait tellement avoir une liste de choses à faire qui nous permettrait d'être en paix. Ça y est, j'ai fait ce que j'ai à faire. Qui nous permettrait peut-être même d'être fier. Dieu m'a demandé ça, j'ai tout fait. Super. Mais ce n'est pas ça. Ce que Dieu veut, c'est que nous vivions notre relation avec lui dans la liberté motivée par l'amour que nous développons pour lui. Alors, quand même, sans tomber dans la liste de choses à faire, il me paraît nécessaire de donner quelques pistes pratiques. Que faire pour toujours mieux connaître la volonté de Dieu ? Lire la Bible reste une valeur sûre. Elle est parole de Dieu, c'est elle par laquelle il se révèle, révélation, écrite, accessible. Elle est une mine d'or pour mieux connaître Dieu. Il faut la lire et la relire. Je me souviens d'un jeune homme qui voulait connaître Dieu et quand je lui ai conseillé de lire la Bible, il m'a répondu mais je l'ai déjà lu. Il est important de lire et relire parce que notre vécu change, nos situations changent et nous apprenons à connaître Dieu dans toujours plus de contextes différents. Il est nécessaire de prendre du temps. Prendre le temps de méditer ce que nous avons lu, d'y réfléchir, de chercher à le comprendre, de chercher comment cela complète ou affine ce que nous savons déjà. Lire la Bible, prier également fait partie de la base pour connaître Dieu. Et prier, ce n'est pas demander, qu'il s'agisse de demandes de confort ou plus essentielles, extraordinaires ou toutes simples. Prier, c'est parler à Dieu. C'est répondre à ce qu'il nous dit à travers sa parole. Y répondre dans les circonstances que nous traversons. Et encore une fois, ça demande de prendre du temps, de se mettre à l'écoute, de se mettre au calme, dans le silence. Et parfois, on peut vouloir faire silence en s'isolant dans une retraite ou à travers le jeûne. Jeûner, c'est se priver de nourriture pour être plus disponible. Mais on peut aussi mettre de côté son téléphone portable. En vacances, en visitant des églises, j'ai vu dans plusieurs cette affiche sur laquelle il est inscrit « Il est possible qu'en entrant dans cette église, vous entendiez l'appel de Dieu. Par contre, il est peu probable qu'il vous contacte par téléphone. » Connaître la volonté de Dieu dans la prière, c'est aussi faire taire les distractions qu'on peut avoir pour être avec lui, attentif à lui. Lire la Bible, prier. L'auteur américain Eugene Peterson ajoute une troisième pratique nécessaire à la croissance spirituelle. Il s'agit de la direction spirituelle. Voici la définition que donne l'auteur. La direction spirituelle est l'acte qui consiste à prêter attention à Dieu, à attirer l'attention sur Dieu, à être attentif dans la vie d'une personne, dans les circonstances ou dans une situation. Prêter attention à Dieu, attirer l'attention sur Dieu. Il s'agit de voir et d'échanger régulièrement avec un directeur spirituel, pour reprendre le terme désuet de Eugene Peterson, ou un accompagnant spirituel, pour reprendre un terme plus actuel, pour qu'il nous aide de façon simple à voir Dieu au travail dans nos vies. Il peut s'agir d'un pasteur, il peut s'agir de personnes qui se forment à l'accompagnement spirituel, il y en a dans notre Église. Ou cela peut être quelqu'un avec qui on s'entend et dont on constate qu'il nous stimule, qu'il nous montre ce qui se passe dans nos vies sur le plan spirituel. Ce n'est pas que nous ayons besoin de quelqu'un de plus spirituel que nous pour connaître Dieu. Non, c'est quelqu'un qui chemine avec nous. Nous sommes une communauté de rois prêtres. Il n'y a pas d'intermédiaire entre nous et Dieu. Mais Dieu nous a ainsi fait que nous ayons besoin les uns des autres. Il est écrit, le faire aiguise le faire, le contact avec autrui affine l'esprit de l'être humain. Nous avons besoin les uns des autres. La première chose donc demandée par David, c'est de s'appliquer de tout votre cœur et de tout votre être à connaître la volonté de Dieu. On oublierait presque qu'il y a une deuxième chose. À la lecture du texte, on aurait peut-être pensé que se mettre à l'ouvrage et construire le sanctuaire de Dieu était le principal. Elle arrive en second, après apprendre à connaître la volonté de Dieu. Construisez le sanctuaire de Dieu. Je rappelle, le sanctuaire de Dieu, ce n'est pas un bâtiment. David ne nous dit pas qu'il faut nous inscrire à la journée travaux de samedi prochain. Ça, c'est Hervé et le conseil qui nous y invitent. Le sanctuaire de Dieu, le nouveau temple, c'est l'ensemble des croyants. Et il a besoin d'être construit. Je cite encore la première épître de Pierre, encore au chapitre 2. « Laissez-vous bâtir, vous aussi, comme des pierres vivantes pour construire un temple spirituel. » Nous sommes les pierres qui servent à la construction. Et comme nous sommes invités à prendre part à la construction, nous sommes invités à nous y placer nous-mêmes. Pas à être à l'extérieur et prendre des pierres, mais à venir nous-mêmes nous mettre dans la construction. J'aime beaucoup la traduction que je vous ai lue. « Laissez-vous bâtir ». La plupart des autres traductions utilisent des termes comme « édifiez-vous ». Mais cette formulation « laissez-vous bâtir » met en avant le fait que ce n'est pas nous qui décidons. Nous nous offrons, nous nous rendons disponibles pour Dieu qui nous place là où il veut. Construire le sanctuaire. Là encore, il va falloir donner quelques pistes pratiques. Comment faire ? Déjà, je dirais, s'attacher à une église locale. Le temple de la Nouvelle Alliance a beau être spirituel, il n'en est pas moins concret. Ce sont des femmes et des hommes que Dieu a choisis et qu'il rassemble. Ce n'est pas parce que l'Église dans son ensemble dépasse une communauté locale qu'il ne faut pas s'attacher à une communauté locale. J'aime paraphraser l'apôtre Jean dans sa première épître en disant « Si quelqu'un ne fait pas partie d'une église qu'il voit, il ne peut pas faire partie de l'église universelle qu'il ne voit pas. » Et quand je dis s'attacher, il y a aussi là affaire de persévérance. Parce que l'église, ce n'est pas un lieu parfait. Ni celle-ci, ni une autre. La prédication ne sera pas toujours édifiante. La louange ne m'emportera pas toujours. Les relations avec les frères et sœurs ne sont pas toujours profondes. Mais Dieu aime cette église. Il aime cette église en construction. Et il veut qu'on la construise, qu'on s'y attache, qu'on y participe. S'attacher à une communauté locale. Également, construire le sanctuaire de Dieu, ce n'est pas une attitude passive qui consiste à chauffer les bancs ou à inscrire son nom sur une liste de membres, c'est participer. Participer dans le culte, être là, joindre sa voix à celle qui ensemble loue Dieu, joindre son attention à ceux qui écoutent et veulent se laisser transformer, c'est conduire le temple, construire le temple. Car une église n'est pas une organisation avec un objectif, avec une mission, avec des tâches à accomplir. C'est un temple, un lieu de présence de Dieu, un lieu où on offre des sacrifices spirituels. Dans un monde où tout se monnaie, prenons conscience que notre participation au culte a une valeur pour Dieu, qui veut que son nom soit loué et qui s'est constitué un peuple pour cela. Participer également dans l'amour, dans l'accueil les uns des autres. Si on considère l'Église comme un temple constitué de pierres personnes, la construire, c'est se placer les uns à côté des autres, s'accueillir, entrer en relation et s'aimer. L'Église n'est pas un lieu de personnes qui se sont choisies. C'est un lieu où Dieu rassemble ceux que lui a choisis. Nous construire en temple spirituel, c'est accepter le choix de notre Seigneur, se l'approprier, le faire nôtre. Et ce n'est pas toujours facile. Et la troisième façon de participer, c'est s'investir dans l'Église. De s'investir dans l'Église, c'est s'investir dans la croissance des autres. J'insiste sur ce point, la croissance des autres. L'Église, ce n'est pas une association où chacun doit prendre sa part, son service pour que ça tourne. Ça peut ressembler à ça, mais en réalité, c'est bien plus que cela. Tout ce que nous faisons dans l'Église doit servir à sa construction, c'est-à-dire à la progression de l'ensemble et de chacun. Paul le dit dans l'Épître aux Éphésiens que les dons sont donnés pour l'édification de chacun, pour la croissance de chacun. L'Église, ce n'est pas appelé à être un lieu où on s'occupe, un lieu où on se rend utile, c'est un lieu où on se fait grandir les uns les autres, c'est un lieu où on se construit, où on s'édifie les uns les autres. S'investir dans la croissance des autres. Comment faire? C'est une tâche importante, impressionnante. Nous ne savons pas forcément par quel bout la prendre. Aussi rappellerai-je la première étape dont parle David. S'attacher de tout son cœur et de tout son être à connaître la volonté du Seigneur, votre Dieu. Il n'y a qu'en sachant ce que Dieu veut que l'on peut voir en notre place dans la croissance de nos frères et sœurs. Ce n'est que comme ça que nous prendrons conscience de nos dons et de la place qu'il a prévue pour nous dans son édifice. Et de même, il n'y a qu'en sachant ce qu'il veut pour nous que nous pouvons aimer. Le Nouveau Testament regorge de conseils pratiques sur comment nous aimer. Et ça signifie que nous avons vraiment besoin d'être conseillés pour parvenir à nous aimer. Mettez-vous à l'ouvrage, dit David. Mettez-vous à l'ouvrage, pouvons-nous recevoir ce matin. Je reçois cet impératif comme une invitation à mettre en pratique la volonté de Dieu, celle que nous avons cherché avec tant de force à connaître. La foi, ce n'est pas de la connaissance. La foi, c'est un chemin de vie qui invite à une façon de vivre en accord avec ce qu'on croit, avec ce que l'on sait. C'est ce que dit David. Connaissez et mettez-vous à l'ouvrage. On ne se met pas à l'ouvrage sans connaître, mais ça ne sert à rien de connaître sans se mettre à l'ouvrage. Pour conclure, j'aimerais relire l'exhortation de David au chef du peuple. Appliquez-vous de tout votre cœur et de tout votre être à connaître la volonté du Seigneur votre Dieu. Mettez-vous à l'ouvrage et construisez le sanctuaire du Seigneur Dieu. Vous pourrez ainsi déposer dans le temple que vous aurez construit en son honneur le coffre de l'alliance du Seigneur et les objets qui appartiennent à Dieu. Bien plus que de mener des projets de construction de bâtiments ou autres, d'une façon sage et biblique, nous sommes directement invités à prendre part à la construction de l'Église, le temple spirituel de la Nouvelle Alliance, le sanctuaire par lequel notre Dieu est présent aujourd'hui dans ce monde. Et pour participer à cette construction, nous devons nous appliquer à connaître la volonté de notre Seigneur. Et c'est plus qu'une tâche à ajouter à ma façon de vivre. Cette quête doit être au cœur de ma vie. Cela semble exigeant. Ça l'est. Mais je crois pour ma part qu'il n'y a rien de meilleur que de vivre cette vie de paix, libérée des désirs du péché, et de faire partie du temple où Dieu réside et où son alliance avec le monde se manifeste. Amen. Prenons un temps pour laisser résoudre.